Bonsoir Marlène Coulon-Gully.
Bonsoir.
Donc vous êtes chercheuse et professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse. Et vous avez participé avec beaucoup d'autres chercheurs et chercheuses à l'étude GMMP, donc Global Media Monitoring Project. C'est la plus grande étude internationale sur le genre dans les médias, sur la présence des femmes, sur les stéréotypes de genre dans les médias. Et concrètement, vous prenez donc un jour de production ordinaire d'information toutes les 5 ans et vous mesurez donc la part des femmes dans les nouvelles et dans les journalistes qui produisent justement ces informations. En ce qui concerne le dernier rapport donc de 2020, vous avez constaté qu'il y avait 30% des femmes dans les nouvelles et 40% des femmes journalistes. Est-ce que, pour commencer, vous pourrez commenter ces résultats ?
Alors, que vous dire ? Alors, ces résultats nous ont déçus. On attendait beaucoup de cette édition 2020 du GMMP, parce que c'était la première après MeToo, que ça fait des années qu'on travaille avec un certain nombre de grands médias pour les sensibiliser à cette question. Et on s'était dit que, ma foi, cette édition du GMMP pourrait peut-être nous permettre de toucher du doigt un certain nombre de progrès et nous permettre peut-être de récolter le travail de formation et d'information qu'on avait pu faire sur ce sujet auprès des médias. Alors, c'est vrai qu'on avait eu quelques alertes, puisque après l'enthousiasme qui nous avait porté suite au mouvement MeToo et à cette prétendue libération de la parole des femmes, libération de l'écoute, il y avait eu la Ligue du LOL qui, au niveau des médias, nous avait rappelé que les choses étaient ce qu'elles étaient. Mais en même temps que les choses finissent par être dénoncées, était pour nous une bonne nouvelle. Et puis il y avait eu surtout cet épisode du Covid où on avait vu les femmes passer totalement à la trappe et disparaître de l'information qui était devenue une information extrêmement, extrêmement masculine, où la parole d'autorité était devenue une quasi-exclusivité masculine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces soirées à la télévision en particulier, où on voyait défiler des professeurs de médecine, etc., où les femmes avaient totalement disparu. Et cette disparition était inquiétante au point que Marlène Schiappa, qui était à l'époque secrétaire d'État aux droits des femmes, avait opéré une saisine et demandé qu'une étude soit faite sur la question.
Et vous avez fait cette enquête pour la première fois en 1995, si je ne me trompe pas. Est-ce que les résultats de cette année-là, ils étaient étonnants pour vous également, dans quelque part, ou est-ce que c'était plus ou moins ce que vous avez attendu?
Je n'ai pas personnellement coordonné l'enquête de 1995.
D'accord.
Et de mémoire, la France n'était pas à l'époque partie prenante de cette enquête du GMMP. Donc la France n'est réellement entrée en lice, si je puis dire, qu'en 2010. Donc j'ai coordonné effectivement pour la France l'enquête du GMMP en 2010. La France a continué d'intégrer cette étude en 2015. Et ce qu'on a vu, c'est que les progrès étaient loin d'être linéaires. C'est-à-dire que certaines enquêtes, celle de 2010 par exemple, nous montraient des chiffres de représentation, je ne les ai plus exactement en tête, il faudra que vous les retrouviez, qui étaient, disons, de 27% de femmes citées dans les médias, et on se rend compte qu'en 2015, elle chute à 24%, pour remonter à 30% en 2020. Je parle là des femmes qui sont représentées dans les médias. Donc ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de progrès linéaire et que voilà, l'optimisme dont on veut essayer de faire preuve quand on travaille sur la question du genre dans les médias doit être lucide et doit prendre en compte le fait que si derrière les féministes, les personnes éprises d'égalité ne poussent pas en permanence et ne sont pas vigilantes, il n'y aura pas de progrès linéaire.
Justement, à propos de progrès, vous avez dit que ces résultats ont été globalement décevants pour cette année 2020. Donc pourquoi, d'après vous, la prise de conscience générale qu'il y a eu sur les questions des genres, sur les questions de féminisme, après la vague de MeToo aussi, peine à se faire entendre dans les médias aussi ?
Alors, on a travaillé avec un certain nombre de médias et on ne peut pas nier le fait qu'il y ait eu une prise de conscience, hein, puisque les médias ont quand même été directement interpellés parmi tous. On sait que certains d'entre eux ont nommé une gender editor pour essayer de faire avancer les choses. D'autres, même s'ils n'ont pas nommé ce type, s'ils n'ont pas décrété ce type de fonction, ont travaillé avec leurs équipes pour faire en sorte que la parité soit mieux prise en compte, mieux intégrée. Mais je crois qu'il y a là une inertie qui est absolument considérable. J'ai l'habitude de citer Foucault qui parle des médias comme de technologie de genre. De Teresa de Lauretis qui, reprenant la formule, dit ce sont avant tout des technologies... Enfin, non, plus exactement, Foucault parle de technologie de pouvoir et Teresa de Lauretis en parle comme de technologie de genre. Et je pense effectivement que les journalistes sont porteurs de cette espèce d'insu structurellement sexiste et que, et ça c'est Foucault qui le dit et je partage assez son point de vue là-dessus, les technologies de pouvoir se caractérisent par une profonde inertie. Cette inertie est leur force. Et quelles que soient finalement les pressions et les impulsions que l'on peut s'efforcer d'exercer, ils répondent par cette forme d'inertie. Donc il faut que les pressions soient très 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 grandes pour réussir à faire bouger les choses.
Et comme dit, l'enquête est basée sur un jour chaque année. Comment choisissez-vous le jour exact ?
Alors, ce n'est pas chaque année, c'est tous les 5 ans.
Pardon, tous les 5 ans. Je me suis trompée.
Et alors, ce n'est pas nous qui le choisissons. Hein, c'est l'équipe qui pilote le GMMP au niveau mondial. C'est une équipe canadienne, en l'occurrence. Et donc, sont exclus, a priori, le dimanche et le vendredi. Parce qu'en fonction des religions, ce sont des jours qui sont fériés. En général, le lundi n'est pas pris en compte non plus. Le mercredi est problématique parce que très souvent, les enfants n'ont pas d'école, etc. etc. Donc, ce sont des jours ouvrés, ce sont des jours où l'on travaille et ce sont des jours où on imagine, on pense que les hommes et les femmes ont une activité régulière qui sont choisies. Donc, finalement, très souvent, le mardi ou le jeudi.
J'avais une question, c'est du coup concernant ce jour, le fait que ce soit concentré que sur un jour, les études, ça peut poser des questions notamment sur les résultats en soi, est-ce qu'ils sont continus, surtout que c'est tous les 5 ans, du coup qu'est-ce qui reflète vraiment ces résultats, quel est votre avis là-dessus ?
Je vous comprends bien. Alors d'abord, bon, l'explication, vous la connaissez, si ça n'est qu'un jour, c'est parce que ça mobilise des centaines, je n'ai plus le chiffre en tête, mais un nombre considérable de militants, militantes, chercheurs, chercheuses, et que dans la mesure où c'est mondial, on ne peut pas multiplier le nombre de périodes prises en compte, ni la longueur des périodes prises en compte. Mais ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'en dépit de tous les aléas qui sont effectivement liés au fait qu'il ne s'agisse que d'un jour, ce que montrent les études qui reposent sur des bases différentes, hein, comme celle qui a été évoquée notamment par les deux collègues sur Gendered News, même si eux travaillent en continu sur la question de la représentation des hommes et des femmes dans les médias, on se rend compte finalement que ce one shot qu'on fait une fois tous les 5 ans est tout à fait, enfin, propose des résultats tout à fait conforme. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Même si, dans le détail, je vous rejoins, ça comporte une part d'aléas que l'on vérifie d'ailleurs sur d'autres items. L'intérêt de ne le faire qu'une fois tous les 5 ans, c'est qu'on peut en faire une espèce de marqueur au niveau de l'espace public. Les journalistes savent que les résultats du GMMP vont sortir, il y a une forme de mobilisation, c'est vrai aussi auprès des pouvoirs publics et des politiques. Donc on peut se servir de ce qui peut apparaître comme un inconvénient, comme d'une force, en se disant que c'est une façon de mobiliser l'espace public sur cette question-là.
Et
Justement, vous avez parlé de Foucault tout à l'heure et à propos de la technologie de genre, on peut aussi citer ce que vous avez cité aussi dans la table ronde tout à l'heure, c'est que les médias sont performatifs, c'est-à-dire qu'ils contribuent à la construction de la réalité et donc ils ont une part de responsabilité importante dans la représentation genrée et sexiste du monde. Donc voilà, comment vous réagissez là-dessus, sur cette responsabilité des médias ?
Eh bien, quand on discute avec des journalistes au sein des rédactions, on fait appel à leur sens de la responsabilité en disant qu'ils participent directement à la construction de l'espace public à travers les images qui sont véhiculées ou qui ne sont pas véhiculées, à travers les mots qui sont dits comme à travers les mots qui sont tus. Donc cette responsabilité des médias dans le façonnage, dans la construction du monde social, elle est très importante. Et je crois que c'est important, notamment pour vous qui vous lancez dans le métier de journalisme, d'avoir à l'esprit cette responsabilité qui est la vôtre.
Et juste pour conclure, vous avez évoqué tout à l'heure le gender budgeting aussi, donc une espèce de soutien des pouvoirs publics aux médias qui s'engagent pour l'égalité de représentation des femmes et des hommes. En quoi ça peut être une solution ? Est-ce que ce serait peut-être aussi discriminant vers d'autres médias ?
Alors on est là en train de réfléchir, je crois collectivement, à la façon dont on pourrait pousser les médias à continuer ou à commencer, pour certains d'entre eux, à se poser la question de l'égalité de genre. Alors cette idée du gender budgeting avait été proposée il y a un certain nombre d'années par le Haut Conseil à l'égalité et très mal reçue par les médias qui voyaient là une forme de censure qu'on voulait leur imposer et leur opposer. Alors, ça fait une dizaine d'années à peu près, je crois que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. On a vu que le CNC, le monde du cinéma, s'était saisi en tout cas de cette possibilité et le voyait peut-être moins comme une sanction. Il s'agissait moins de pénaliser des médias qui n'étaient pas vertueux que de valoriser les médias qui l'étaient. Bon, mais ça pose quand même un certain nombre de questions, et notamment ceux des indices, du panier d'indicateurs que l'on va mettre, que l'on va prendre en compte pour considérer qu'un média est gender-friendly ou pas.
Et puis, j'avais aussi encore une question, c'est concernant les travaux, les recherches que vous avez effectuées. Quels sont les points que dans les prochaines années vous aimeriez voir évoluer ? Comment vous voyez les points, je sais pas, des envies particulières que vous avez envie de développer et que vous n'avez pas pu lors du dernier rapport ?
Alors il y a la question de la diversité, bien sûr, et de l'inclusivité des médias sous toutes ses formes. Bon, vous évoquiez justement la question des personnes handicapées. Voilà, ça ce sont des points, donc la question de la diversité, des personnes racisées, des personnes issues de classes sociales défavorisées. Ce sont des points évidemment sur lesquels il va falloir qu'on apporte des réponses et qu'on pose des chiffres. Mais voilà, il faut trouver les bons indicateurs pour rendre des études fiables quand on pose ce type de questions. J'évoquais dans la table ronde les problèmes qui étaient posés notamment par la question des personnes racisées. À l'heure actuelle, quand on essaye d'évaluer le nombre de personnes racisées qui sont présentes dans les médias d'information, c'est finalement la perception que peut avoir le chercheur ou la chercheuse de la racisation de la personne qu'on teste. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de dénouer et sur lequel il faut qu'on avance et qu'on réfléchisse collectivement.
Et pour finir, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pourriez souligner quelles sont les solutions exactes, comment résoudre cette inégalité qu'on voit chez les médias quand on regarde les femmes et les hommes ?
Alors, je pense que la réponse, elle est collective. Il faut absolument que les citoyens, les citoyennes soient vigilants et refusent de cautionner un travail des médias qui soit sexiste. Donc il y a une question d'éducation des citoyens et des citoyennes. Il y a une question aussi de formation des journalistes pour les rendre conscients responsables sur ces questions. Alors on sait que tous les journalistes ne passent pas par des écoles de journalisme, loin s'en faut, mais ça veut dire que dans la formation initiale et dans la formation continue des journalistes, il faut absolument qu'il y ait une part importante de ces questions qui soient traitées avec des volumes horaires conséquents, hein, qui donnent des résultats. Et puis, bon, voilà, on a aussi la question des pouvoirs publics qui a été évoquée tout à l'heure avec l'hypothèse de gender budgeting. Donc, on a des solutions, mais il faut qu'il y ait la volonté politique au sens large, hein, pas seulement institutionnel, de les mettre en œuvre.
Merci beaucoup, Marlène Coulonguilly. Je le rappelle, vous êtes chercheuse et professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse. Et vous avez pris partie à l'étude GMMP, que vous pouvez consulter sur le site whomakesthenews.org. Je rappelle aussi que vous avez écrit plusieurs livres sur ce sujet de la représentation des hommes et des femmes dans les médias, notamment par exemple 8 femmes sur les plateaux. Je vous remercie beaucoup pour votre temps.
Merci à vous.